sur l'espérance chrétienne, sur l'espérance que l'Esprit Saint veut mettre dans notre cœur. Oui, on sent bien que, effectivement, dans ce cinquième mystère joyeux du nouvel avènement, de la venue intermédiaire de Jésus, et du second avènement, c'est ce qu'on appelle quelquefois le second avènement chez certains pères de l'Église, il y a un rôle, on le voit bien, si on le met en parallèle avec le cinquième mystère joyeux, un rôle de Joseph, quoi. Un rôle de Saint Joseph, un rôle de Marie, quoi, qui cherche Jésus, qui vont vers Jésus. Et pour ça, ils descendent dans le temple de Jérusalem, ils descendent, et ils le trouvent là. Et, au niveau de l'avènement glorieux, vous comprenez, c'est bien sûr Jésus et Marie-Joseph qui descendent. Ils ont hâte de trouver Jésus. Ce Jésus qui est présent dans le corps mystique de l'Église, un corps mystique de l'Église qui est en pleine effervescence, qui commence enfin à parler le langage de l'Immaculée Conception et de l'Esprit Saint. C'est ce que je suis, il emploie enfin le langage de la proclamation au docteur d'Israël. C'est beau ça. Et alors, une fois qu'ils sont là, alors aussitôt Jésus, il passe. C'est comme s'il y avait quelque chose qui passait de la sainteté de l'Église. La sainteté de l'Église passe de l'intelligence de sa proclamation, l'infaillibilité de sa doctrine, à la fécondité de son amour. La descente de Jérusalem vers Nazareth, sous l'ombre de Joseph, à l'ombre du papa, il était soumis à Joseph, Marie était soumise à Joseph, Jésus aussi, à Nazareth, cette descente du temple, c'est-à-dire de l'intelligence sainte, proclamée, infaillible, immaculée, à Nazareth, c'est une descente dans le cœur, une descente sur Nazareth. Le centre de gravité de la sainteté de l'Église va passer de l'infaillibilité doctrinale à l'irrésistible fécondité de son amour sur la terre. C'est ça le fruit de ce cinquième mystère joyeux, sans que l'Église perde l'infaillibilité, évidemment, de l'intelligence, mais elle va le vivre. Ce qu'elle proclame depuis 2000 ans, elle va le réaliser et l'actuer dans une communion extraordinaire de charité cachée, mais infaillible dans sa fécondité. On pourrait presque dire dans son efficacité. Ce qui va évidemment réveiller la rage de l'Antichrist. Où est-ce qu'ils sont? Alors, il faut lire le père Armin Jean là-dessus. Extraordinaire. Tout ce que 60 à 70 pages uniquement sur ce que nous savons déjà sur l'Antichrist. Au 19e siècle. Si on ne le sait plus aujourd'hui, c'est parce qu'on a étouffé. Vous savez, on en sait beaucoup sur lui. Mais ça, je vous le dirai pas. Oh. Oh, on a encore 20 ans devant nous. C'est une manière de parler. Nous allons continuer notre méditation sur l'espérance. Je crois qu'il faut continuer sur respecter le thème du jeudi, qui est un thème qui concerne les sacrements. Il y a dans les sacrements ce développement progressif par lequel Jésus se rend présent, son incarnation, à sa mort, jusqu'à la Pentecôte, en passant par sa vie publique. Voyez. Et donc, à chaque fois, Jésus se rend présent. Et donc, c'est ça un sacrement. Jésus se prend intégralement présent, et toutes les grâces qu'il a données sur la terre de son vivant, il les donne à nous, à moi tout seul, dans le sacrement. À chaque sacrement. Voilà. Ça, c'est facile à comprendre, je crois. Et le sacrement, l'Église l'a organisé de manière à ce que je puisse être conscient de ça, recueillir ça et lui donner son fruit. C'est pour ça qu'il y a sept, toujours, grands moments dans un sacrement. Donc nous regardons surtout le sixième moment. Dans le sacrement, le passage de la présence réelle à la réception dans mon corps de cette présence réelle. Et comment je dois faire pour faire passer le sacrement que j'ai reçu, pour que je presse dessus, hein. C'est pour ça que j'aime bien les berlingots, vous savez, les berlingots, c'est ces berlingots où vous mettez du Nestlé concentré, là. Alors, peut-être un petit trou, et puis vite vous pressez. Alors, c'est le comment dire, quand vous faites ça, avant de faire ça, le Nestlé est dans le berlingot, vous pressez, et le berlingot, le carton, est dans le Nestlé. Ça colle dessus. C'est ça, hein. Vous pressez bien et ça sort. On passe de la sacramentum et res à la res et sacramentum. C'est mieux? Alors, sur l'absolution, c'est bien. Mais j'allais dire, on s'en fout. Si on s'arrête là, c'est plus catholique du tout. Il faut presser pour que... Sinon, c'est comme si tu bouffais ton berlingot, je veux dire. Et puis que le Nestlé, il reste dans le berlingot. Alors après, ça sortira. Hein, sans que ces données sans fruit dans ton corps, quoi. Il faut vraiment pas s'arrêter à l'absolution, évidemment. Sinon, j'allais dire... À la limite, c'est bien, Dieu est passé, quoi, mais... Hein, Jésus est passé, il est passé par là. Hein, mais comme il dit, quand il est passé à Nazareth, il passa là, par là, sans pouvoir faire de bien, sans pouvoir guérir aucun malade, parce qu'au fond, il ne l'aimait pas. Ben, Jésus est quand même passé par là, c'est déjà quelque chose. Non, ben, c'est tout. Alors, comment faire? Oui, c'est ça. C'est beau les sacrements, hein, c'est vrai. Hein. Alors, donc, je pense que pour l'Eucharistie, c'est... Je crois que c'est facile. Enfin... Bon. Prenons maintenant la confession, le sacrement de pénitence. Le sacrement de pénitence, il y a les sept moments, toujours pareil, de l'incarnation jusqu'à la Pentecôte. Où est-ce que vous pouvez repérer ça? Vous pouvez repérer ça, c'est qu'il y a des étapes dans le sacrement. Ces étapes, c'est très facile. Vous avez le moment où vous réalisez franchement, tiens, vous êtes en dehors et vous avez perdu l'état de grâce par le péché. Vous réalisez ça. C'est une première grâce qui vient du sacrement que vous allez recevoir. Parce que réaliser qu'on est en état de grâce, qu'on n'est plus en état de grâce, le réaliser vraiment, de l'intérieur, si vous voulez, ça vient du sacrement de pénitence que vous allez recevoir. De même que la transsubstantiation sur l'autel vient bien du prêtre qui est en train de s'habiller dans la sacristie, qui rentre dans l'église. De la même manière, quand je réalise que je ne suis plus en état de grâce et que j'ai besoin de la confession, que j'ai besoin de la confession, c'est une première grâce qui vient du sacrement de pénitence. Connaissance de mon péché. Il y a des gens qui disent, mais moi, c'est pas un péché pour moi. Et donc, ça veut dire qu'ils ne vivent pas encore, même des premières grâces du sacrement de pénitence. Non, pour moi, c'est pas grave, ça. Normal. Oui. Et ça, allez, ça correspond, bien sûr, à l'incarnation. Quand Jésus vient dans une âme, il montre l'incarnation de nativité. Il met la lumière. Il illumine, il donne naissance, il met la lumière dans un monde de ténèbres. Une lumière a resplendi. Et du coup, je vois le péché. Un fils nous a été donné, un fils nous est né. Comme dit le prophète Isaïe. Un signe du pouvoir d'absoudre est sur son épaule. Alors, on appelle ça la pré-confession, qui correspond à l'enfance, la vie cachée, le baptême par Saint Jean-Baptiste. C'est l'ouverture du cœur. Il dit, il faut que je me confesse, c'est décidé. Je vais me confesser. Ce sera peut-être dans 15 jours, dans un mois, enfin, dès que je peux, je le ferai. C'est autre chose. Voyez. Constater que j'en ai pas de péché, que j'en ai besoin, c'est pas encore décidé. C'est décidé, je vais me... Alors, on va vers Jésus, vie cachée, puis Jean-Baptiste. Allez, c'est décidé, je vais me confesser. Dès que je peux, j'y vais. Je le dirai. Ce qui correspond à la tentation, aux tentations de Jésus dans le désert après son baptême, à sa vie publique, à la proclamation de la vérité ouvertement pendant les 3 ans avec les apôtres, c'est la séparation qu'on fait du péché lorsqu'on est auprès, là, on est là, à quelques minutes de rencontrer le prêtre et on fait l'examen de conscience. C'est-à-dire, on se proclame à soi-même en formulant quels sont les péchés de la lumière du Christ. Oui, Jésus, dans sa vie cachée, dit rien, mais pendant ces 3 ans, il formule la révélation avec les mots justes. Ça correspond à l'examen de conscience. L'examen de conscience me permet de formuler dans la lumière du Christ les mots justes qui permettent de dire une confession juste, et complète, et loyale, et généreuse. C'est l'examen de conscience. En faisant ça, je suis déjà séparé du péché, parce qu'un péché formulé exactement est une première séparation. Et elle vient du sacrement. C'est une grâce sacramentelle. Il y a déjà une présence réelle. Après, vous avez Gethsémani. Oh là là, c'est l'angoisse, hein. et la croix. Alors, on attend. Le père dit, bah, écoutez, oui, on va vous confesser, bon. Non, mais en plus, dur de confesser, vous savez. Alors, Gethsémani, puis la croix, et puis on attend l'heure. On attend l'heure, il y a une angoisse, c'est dur, et pourtant il faut rester. Et puis c'est le moment, quoi, c'est le moment décidé par le Père. C'est pas décidé par moi le moment. Le Père, c'est quand il peut, quand il veut. Les prêtres qui disent toujours oui, immédiatement, c'est très mauvais. Ce sont de mauvais prêtres. Parce qu'ils ne font pas vivre cet aspect du sacrement aux gens. C'est bien qu'il y ait des prêtres qui disent non. Demain, enfin, dans une semaine. Mais s'ils ne font pas ça, ils ne font pas vivre le sacrement, vous comprenez? Il faut qu'il y ait ce geste humain. Il faut qu'il y ait le chemin de croix, il faut qu'il y ait Gethsémani, il faut qu'il y ait la croix, il faut qu'il y ait cette présence de Jésus qui monte vers l'absolution universelle de toute l'Église. Et puis, et donc il est là, il vous accueille, ça y est, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, puis je commence à formuler, ça y est, et puis voilà, je suis pris, et j'avoue. Oui, c'est ça. Alors, il y a les sept paroles. Les sept paroles du Christ en croix, qui se réalisent et qui correspondent à l'aveu. J'ai soif. Pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Au bon larron, aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Entre tes mains, je remets mon esprit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Femme, voici ton fils. Avec Marie, ça ira mieux. C'est l'aveu, vous voyez. Donc, il est très beau ce moment-là, vous voyez. C'est le moment de l'attente et de l'aveu. Gethsémani, chemin de croix et croix. Le cinquième moment, qui correspond à la mort de Jésus, la blessure du cœur de Jésus, la descente aux enfers, donc les 36 heures de Jésus entre sa mort et sa résurrection, quoi, ces 36 heures si importantes. Alors c'est, je reste en silence et j'attends que le prêtre me dise quelque chose qui vient du ciel. Ce que le prêtre va me dire vient du ciel. Alors, il me fait une exhortation, il utilise mon silence pour faire une exhortation, donner un conseil, et c'est dans le silence habité de mon cœur que je reçois, venant de Dieu, ce qu'il dit. Il me donne une pénitence à faire. Tu iras dans les profondeurs des limbes, n'est-ce pas, pour prier. En disant, je vous salue Marie, voilà quoi, sur la sainte pénitence. C'est beau ça, hein, aussi. Et puis il vous donne l'absolution. Alors ça c'est vraiment. Ouais, c'est facile, hein. Blessure du cœur, c'est toujours le moment, quoi. Puis résurrection. L'absolution est donnée, vous êtes absous. Et il vous donne la bénédiction. Après l'absolution, c'est la résurrection. D'ailleurs, on le sent très bien. On sort du tombeau, du confessionnal. Et puis après, on va faire sa pénitence. Et la pénitence, eh bien, c'est la Pentecôte. Correspond à la Pentecôte, à l'Ascension, on est dans le sein du Père, et dans le sein du Père, on est le Christ tout entier, qui fait la pénitence, c'est-à-dire une prière, qui a pouvoir, en raison du pouvoir absolu du Christ dans le sacrement, qui a pouvoir de donner le pardon sacramentel du Christ à tous ceux qui ne se confessent pas sur la terre. Si le prêtre a pouvoir d'absoudre les péchés d'un seul pénitent sacramentellement, celui qui a reçu le sacrement a le pouvoir de communiquer ce pardon à tous ceux qui ne se confessent pas sur la terre et qui se confesseraient, bien sûr, s'ils savaient. Mais le musulman, il ne sait pas. Hein. Le bororo, il ne sait pas. Hein. Il ne l'a jamais dit. Mais ils ont bon cœur. Ils ont désir, ils savent qu'ils ont fait des fautes, et ils ont désir quand même de demander pardon, et ils savent quelque part. Et donc ils vivent la confession en disant, mais ça, je suis dans le péché, mais sûrement bon Dieu va me pardonner. J'aimerais en tout cas. Et quand, parce qu'il y en a un qui fait sa pénitence, il reçoit l'absolution catholique du sacrement. Il est absous substantiellement. Ça, c'est la fécondité catholique du sacrement, ça. Le sacrement, c'est catholique, vous comprenez? On ne sait pas le sacrement pour soi. J'espère que vous le saviez, quand même. Hein. C'est pour ça que c'est très égoïste de ne pas se confesser quand on est catholique. Hein. Donc, vous voyez, c'est sept moments, toujours pareil, à force, vous allez vous habituer. Je pourrais vous casser la tête, en disant, pour les sept sacrements. Hein. Mais c'est ressentir ces choses-là, c'est une fois qu'on le sait, bon, après ça va tout seul. Bon, mais ça, c'est le principe même du sacrement. Si vous voulez lire les passages, c'est toujours dans l'évangile de Saint Jean qu'on trouve les sept grands moments de ce qui se passe dans le sacrement, du point de vue mystique, les trois personnes de la très sainte Trinité, comme ce que je vous ai fait tout à l'heure pour. Jean chapitre 6, c'est bien ici, c'est ce qu'on appelle, de manière pas très judicieuse, la prière sacerdotale du Christ. Chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, c'est pas très judicieux de dire prière sacerdotale, donc vous verrez sur vos bibles, il y a marqué prière sacerdotale, chapitre 17. C'est pas tellement la prière sacerdotale, hein. Le titre là, c'est pas dans le texte, hein. Saint Jean n'a jamais écrit prière sacerdotale. Hein. Ça, c'est des bons hommes qui ont inventé ça. De la Bible de Jérusalem, ils ont inventé, voilà, prière sacerdotale. Ça n'a jamais été dit, ça. Enfin, il y a certains qui sont incroyables, hein, qui rajoutent des titres. Il n'y en a pas. Tous les intertitres, il faut le savoir, ne font pas partie de l'évangile. Allez, merci. Tout à fait. Et bon, il faut le savoir. Mais même, les intertitres souvent disent bien quand même ce qu'il dit après. Mais prière sacerdotale, c'est pas. Bon, je veux pas discuter ça. En fait, c'est la prière du Fils bien-aimé. C'est la prière du Fils bien-aimé, du Fils entièrement donné. Et ça correspond, vous savez, quand on lit ce passage chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, quand on connaît bien ce qui se passe dans l'Ancien Testament au moment de la fête du Yom Kippour, la fête des Lumières, le Hoshana Rabba, 7 jours du Hoshana Rabba en Israël, quand les Israélites disent vers le mois de septembre, c'est des fêtes mobiles, hein, donc c'est pas toujours des objectifs. Ils disent Hosanna, plus haut des cieux. Hosanna, ça veut dire Seigneur, sauve-nous, je t'en supplie. Sauve-nous, je t'en supplie. Hosha, c'est sauve-nous. Et na, c'est je t'en supplie, une particule d'insistance. Hosanna, sauve-nous, je t'en supplie, sauve-nous. Prière sacerdotale, ainsi parla Jésus. Puis levant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue. Eh bien, cette prière-là, chapitre 17, verset 1 à 26, eh bien, elle a la même structure que la prière que le grand prêtre dans le temple de Jérusalem disait, au moment où il allait prononcer le nom de Dieu, et que le pardon allait être donné à tous les hommes du monde, une fois par an. Dieu avait donné, par la médiation de Moïse, l'assurance
que le jour du Shonar Abba, le peuple d'Israël, par la médiation des sacrifices, de sa fidélité à la Torah, obtenait le pardon du Messie, le pardon, l'absolution du Messie à tous les péchés du monde, pour tous les hommes. C'était une fonction redoutable d'Israël. Et ça a été relayé par sacrement de pénitence. Parce que vous le savez, depuis l'an 30 de notre ère, il n'y a plus jamais eu de Hoshana Rabba en Israël, dans le temple de Jérusalem. Et pourtant, le temple de Jérusalem a été détruit 40 ans plus tard. Ils auraient pu continuer à le faire. Et ils ne l'ont pas fait. À partir de la mort du Christ, les Juifs, même ceux qui n'étaient pas convertis, les grands prêtres, le Sanhédrin, n'ont plus fait le Hoshana Rabba. C'est dans les Midrash des Juifs, ça. C'est pas moi qui le dis, c'est les Juifs eux-mêmes qui le disent. Dans le texte, ils ne font pas la relation avec la mort du Christ, hein, la mort de Jésus. Mais moi, je fais la relation. Parce qu'ils ne disent pas pourquoi. Hein. Aucune raison. S'il y a une raison, en fait, c'est parce que dans les 613 préceptes, alors c'était des gens très regardants, les scribes et pharisiens, il était écrit que lorsque le voile du temple se serait déchiré en deux, que le Saint des Saints serait mis à nu devant tous les regards, il serait impossible et interdit de renouveler le sacrifice dans le temple de Jérusalem. Donc, à la mort du Christ, vous le savez, ces colonnes immenses, très larges, dans le temple de Jérusalem, avec un tremblement de terre incroyable, s'était écarté. Et ça avait déchiré un rideau du temple extrêmement épais, et le Saint des Saints était devenu visible dans l'Évangile. Et donc ils ont respecté les préceptes, ils devaient respecter les préceptes de la Torah. Il y a 613 préceptes. C'était un des 613 préceptes. Et donc ils n'ont plus renouvelé le sacrifice dans le temple de Jérusalem. Vous saviez ça, hein? Et le rideau du temple s'est déchiré quand Jésus est mort en croix. Quelle coulance! C'est étonnant. Oui. Eh bien, quand il y avait le Hoshana Rabba, le grand prêtre qui était choisi cette année-là, faisait le tour de l'autel, dans les encens, je vous passe les trucs, je vous passe les détails, hein, mais et il faisait une prière pour le pardon. Et la prière du pardon, c'est exactement la même structure que cette prière-là. C'est pour ça qu'ils ont mis prière sacerdotale. D'ailleurs, la prière du pardon, en fait, la prière du Fils, qui donne parfaitement tout ce qu'il y a, du Fils bien-aimé, du Père. Voilà. Et c'est pour ça que c'est dans ce passage que je préfère que nous nous orientons pour essayer de trouver dans l'écriture quelque chose de plus mystique, de plus personnel, disons, du côté du sacrement. Ça vaut ce que ça vaut, hein, mais vous pouvez vous faire vous-même la méditation biblique. Hein. Là, j'avoue que c'est moi qui l'ai fait. Hein, mais je ne suis pas infaillible, moi. Là. Ça, c'est moi qui ai fait cette chose. Mais je crois que c'est assez intelligent, ne hein, vous inquiétez pas. Parce que j'ai pas fait n'importe comment, hein, c'est pas une simple intuition. Hein. Je fais ça à partir de la prière d'Israël. Ah, quand même. Mais tout de même, il y a des choses. Mais avant, je vais vous donner les sept noms du sacrement. Je vous ai dit chaque sacrement, on lui donne sept noms. Alors, je vous l'avais déjà dit, sacrement de la lumière. je suis purifié par l'illumination sur mon péché. C'est pour ça que Sainte Thérèse d'Avila dit que les commençants rentrent dans le pardon, dans la voie purgative, le purgatoire, dans la voie purgative, ils sont purgés par la lumière. La voie purgative et la voie illuminative sont les premières étapes de l'oraison. Eh bien, effectivement, ce premier moment dont je vous ai parlé, connaissance de son péché dans la lumière du sacrement qui va venir, c'est un pardon, une purification, une illumination, c'est le sacrement de la lumière. Aussitôt, j'ai la contrition, et la contrition dit, c'est décidé, c'est grâce à la contrition que je veux me confesser. La grâce de contrition fait que je veux me confesser. Et je suis décidé, j'y vais dès que c'est possible. Je vais, j'y vais. Et ça, c'est le sacrement de réconciliation. Dès que j'ai décidé d'y aller, je suis réconcilié. C'est pour ça. C'est pour ça que ne soyez pas choqués, parce qu'un prêtre vous dira, si vous êtes décidé à aller vous confesser, c'est décidé, vous pouvez communier. Mais attention, il ne faut pas que ce soit décidé comme ça. Je suis décidé, mais je ne sais pas si je vais y aller. Hein. Je ne sais pas quand. Hein. Si tu sais quand, le premier prêtre que tu vois, immédiatement. Ah oui, mais enfin, il est en train... Oui. Oui, absolution. Si vous avez scrupules, attendez. Mais si vous êtes décidé, et faites attention, parce que, oui, il est en train de dire la messe, j'arrive en retard à la messe, je ne peux pas, il n'y a pas de prêtre, donc je ne peux pas aller lui dire, père, vous êtes en train de faire la consécration, stop, je veux l'absolution. Mais vous êtes décidé que dès qu'il a fini la messe, à la sacristie, vous vous précipitez, père, une absolution. Je dis, non, je n'aurai pas ce cran de faire ça. Alors, dans ce cas-là, vous ne communiez pas. Si vous êtes sûr que vous ne ferez pas ça à la sacristie, donc vous ne communiez pas. Point. Non, il fera. Il va m'envoyer voler. On verra ça une heure après. La messe. Je vais coincer quand il ira dans sa bagnole. Dans 2 heures. Non, tout de suite. Si je ne fais pas, c'est que je ne communie pas. C'est facile ça. Donc, ça, vous voyez, réconciliation, je suis réconcilié, ça y est, donc je peux communier, je suis décidé d'y aller. Examen de conscience, ce qui correspond à l'examen de conscience, je suis séparé du péché, par examen de conscience, j'ai déjà formulé, c'est décidé, c'est ça que je veux dire. Donc, je me suis déjà séparé. Dès que je l'ai dit, je suis séparé, je l'ai vomi. Déjà, par mon examen de conscience, il y a une séparation, c'est le sacrement du pardon. Ouais. Ça correspond d'ailleurs au... Dès que je fais un examen de conscience, que je veux dire ce péché-là, c'est que je suis décidé à ne pas le recommencer, quoi. Je suis décidé, donc je suis pardonné. Oui. Lorsque j'attends, que je suis dans l'angoisse et que j'avoue devant le prêtre, ah, ça c'est dur. C'est pénible. C'est le sacrement de pénitence. Ah, lorsque, le prêtre me parle... qu'il a une haleine épouvantable. C'est vrai, hein, souvent. Hein. C'est pour ça. Hein. Ça fait partie du sacrement, ça. Ça fait partie, vous voyez. C'est l'exhortation du prêtre. Dans le moment où le corps de Jésus est dans l'état cadavérique, le corps qui meurt est un corps corruptible. C'est à travers ce corps corruptible, ce postillon, cette haleine, que le Verbe de Dieu parle. C'est beau ça. Hein? Absolution. On dit bien absolution, vous voyez? Sacrement de l'absolution. Sacrement du salut. C'est vrai. Et puis après, on va faire la prière finale. Vous voyez, c'est le sacrement de la. Sacrement de la joie. L'Église qui appelle ça sacrement de la joie. C'est... nouveau, ça passe du sacrement de la lumière au sacrement de la joie. C'est d'ailleurs le seul sacrement pour lequel on donne ces termes. C'est super. Parce qu'on est tous joyeux, quoi. Regardez, c'est vrai. Mais enfin, les termes les plus courants, il faut bien le reconnaître, c'est sacrement de pénitence, sacrement de réconciliation, sacrement de confession, hein, sacrement du pardon, bien sûr, ça c'est courant, ça. Et puis sacrement de l'absolution et du salut. Oui, sacrement de la lumière et de la joie, c'est marrant, c'est des choses qui se disent moins maintenant. Ça se disait beaucoup chez les premiers pères, ça. Mais c'est chouette, parce que le fait qu'il y ait plusieurs noms, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ils disent, mais ça fait protestant, votre truc, pourquoi est-ce que vous ne dites pas ça fait protestant? Ça fait catholique, oui, quand tu dis tout. Non, non, mais je comprends, mais... Ah oui, alors ça vaudrait la peine de rester, hein, un petit peu. Ça vaut la peine, vraiment, parce que...